Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Bonjour, je suis Laura Pouliken et vous souhaite la bienvenue sur L'Aléa, le podcast qui parle du risque. J'ai créé ce podcast pour montrer que dans cette société qui voudrait que l'on privilégie la sécurité, la prise de risque est pourtant bénéfique à bien des niveaux. Pour le prouver, j'invite des hommes et des femmes qui ont pris des risques dans des circonstances variées, mais souvent hors du commun. Pensez d'ailleurs à vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute. Et si le podcast vous plaît, le meilleur moyen de me le dire et ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast, c'est simplement de mettre un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou encore ICO. Petite news, pour les passionnés de podcast, je suis heureuse de vous annoncer que j'ai créé la formation dont j'aurais rêvé avant de me lancer. Dans cette formation, dont vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode, je vous donne toutes les clés pour créer le podcast de vos rêves et construire votre image de marque. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma newsletter, dans laquelle vous retrouverez des informations exclusives autour du podcast et du développement personnel. Aujourd'hui, je suis avec Anna Couton.
Si tu veux, je pense qu'à un moment, quand ton esprit, voilà, il veut pas, c'est ton corps qui commence à prendre le relais.
Anna, tu es une Marseillaise exilée en région parisienne. Tu aimes, je te cite, la mer, le soleil, le chocolat, la lecture, la musique classique, les chats et la course à pied. En avril 2019, tu as couru ton premier marathon. Et il y a bientôt 2 ans, tu as remis toute ta vie professionnelle en question. Sans le savoir, tu as commencé un autre marathon, celui de ta reconversion. Tu as écrit le témoignage de cette double course, dite non à une voie toute tracée, le marathon de la reconversion, qui est paru le 9 juillet 2020 aux éditions Kiwi. T'as bien fait de me contacter justement pour cette interview podcast, donc sur l'Aléa. J'aimerais qu'on revienne ensemble donc sur ton parcours, sur l'écriture de ton livre et sur ton processus donc de reconversion, en faisant le parallèle, comme tu l'as fait si justement sur ton livre, entre donc le marathon et ton changement de voie professionnelle, tout simplement. Donc ma première question, elle est très simple. Donc tu as couru, donc si je me trompe pas, ton premier marathon il y a 2 ans, et c'est suite à cela, ou en parallèle à cela, on va le voir ensemble, que tu as remis en cause totalement donc ta carrière. Donc j'aimerais d'abord revenir sur ton parcours, ton rapport au changement, et que tu nous racontes donc ce que tu as fait comme études et ton arrivée dans le monde professionnel, tout simplement.
D'accord. Alors, je vais peut-être revenir sur le parcours professionnel, peut-être comme ça je suis dans l'ordre chronologique. Donc j'ai un bac plus 5 en marketing, que j'ai obtenu en 2013, et je suis partie dans le marketing parce que je savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'étais bonne élève, j'ai fait 2 ans de classe prépa, et je savais toujours pas ce que je voulais faire. Puis j'ai découvert par hasard le marketing, je me suis dit tiens, pourquoi pas. Voilà, sans vraiment en fait avoir réfléchi. Et ensuite j'ai travaillé 5 ans dans 5 entreprises différentes. Donc alors il y avait des CDD, mais quand même 5 fois 5 entreprises. Et pour moi, je l'ai compris quand j'ai eu le déclic que quand même finalement c'était 5 fois la même situation qui se répète avec les mêmes questions. En fait, c'était pas par hasard. Et donc en fait, comment ça s'est passé quand j'ai décidé de changer de vie professionnelle, et le marathon est lié à peu près à cette période-là. En fait, donc je venais d'avoir un CDI depuis 10 mois dans une entreprise dans le sport, et alors qu'auparavant, si tu veux, j'avais eu des CDD dans des banques, et je m'ennuyais beaucoup et je m'étais dit ça vient du secteur. Ça vient du secteur bancaire, c'est le secteur, je vais changer. Donc je suis partie dans le secteur du sport parce que je suis sportive, et en fait les mêmes questions sont revenues. Et en plus là j'avais le CDI, donc j'avais le fameux Graal, et Et finalement, même en ayant le Graal, bah, les mêmes questions de sens et de répétition de mes activités, elles revenaient. Et en fait, un jour, donc, j'étais en train de faire des PowerPoint, des tableaux Excel, enfin les mêmes tâches que je trouvais inutiles, complètement inutiles, qui vraiment, en plus, qui m'ennuyaient, quoi. Là, en fait, il y avait vraiment l'ennui qui se répétait chaque fois. Et là, j'étais enfermée dans mon bureau, avec, tu vois, les quatre murs dans le bureau, quoi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu peux pas continuer comme ça. Et en fait, j'ai levé la tête sur... Enfin, j'ai levé les yeux de mon ordi parce que j'en pouvais plus de regarder cet ordi. Et il y avait en face de moi un square. Et en fait, je me suis dit, purée, mais t'as même pas vu passer le printemps. Il y a toutes les fleurs qui ont fleuri. Toi, tu passes devant ce square à la hâte le matin et le soir. Et en fait, la vie, elle continue. Et toi, tu en es toujours au même stade. Et il n'y a rien qui change. Et là, je me suis dit, bon, en fait, c'est pas possible. Tu peux pas continuer comme ça. Donc, je suis allée prendre mes pauses déjeuner dans ce fameux square. Donc, j'ai passé toutes mes pauses repas. Et en fait, j'ai commencé là à tomber sur des témoignages de personnes qui s'étaient reconverties. J'ai commencé à regarder des TEDx, à regarder des vidéos. Donc, il y avait un peu ce truc de... j'ai envie de faire autre chose, mais quand même, j'ose pas parce que j'ai peur. Je me suis dit, bon, écoute, si tu le fais pas maintenant, tu vas jamais le faire. L'ennui était de plus en plus là, le manque de sens était de plus en plus là. Donc je me suis dit, ben tant pis, je prends le risque, je pars. Mais là, c'est plus possible. Et en fait, quand je suis partie, donc j'ai réussi à négocier une rupture conventionnelle. Je crois que tu veux qu'on y revienne peut-être un peu plus tard. Et du coup, je me suis inscrite au marathon. J'ai eu l'idée du marathon. Donc ça, c'était... Alors attends, pour mettre la temporalité. Donc j'ai quitté mon job en août 2018. Et j'ai décidé de m'inscrire au marathon. L'idée a commencé à germer durant l'été. Et je me suis inscrite en décembre pour le courir en avril 2019, le marathon.
D'accord.
Et voilà. Donc après, si tu veux, je reviens.
Pas de problème.
J'ai beaucoup parlé là.
C'est hyper intéressant. Voilà. Et du coup, toi, donc, tu étais sportive donc, auparavant, comme tu disais. Et pourquoi tu t'es dit, OK, je vais courir un marathon, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Pourquoi cette envie, en fait, soudaine?
En fait, si tu veux, donc comme je te disais, ça faisait 5 ans que je faisais... en 5 ans, j'ai fait 5 boîtes. Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que j'aurais pu continuer comme ça indéfiniment. Si tu veux, moi, je pense que quand tu n'as pas compris quelque chose, la vie, elle te représente la même situation. Exactement. Et je me suis dit, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Donc peut-être que ça vaudrait le coup de réfléchir à vraiment ce que je veux faire de ma vie, parce que finalement j'avais jamais vraiment pris le temps, et comme j'étais une bonne élève, on m'avait dit fais ça, moi j'avais jamais écouté, je m'étais jamais écoutée
comme
moi,
beaucoup, comme j'avais souvent, jamais, je m'étais
comme beaucoup, hein, comme souvent, je suis d'accord. Et donc en fait, je savais que cette période, elle s'annonçait un peu difficile. Alors on peut choisir le terme challengeant, parce que le vocabulaire est super important, je trouve. Donc, une période assez challengeante, quand tu t'es jamais posé la question de ce que tu veux faire ta vie. C'est très dur. Et en fait, si tu veux, j'avais parallèlement déjà quelques semi-marathons à mon actif. Et l'idée du marathon, elle germait depuis quelques temps. Je m'étais dit, purée, mais comment ils font? Et j'ai réalisé que finalement, si je me fixais aussi un objectif en parallèle de ma reconversion... Après, je suis pas là pour dire que tout le monde doit courir un marathon, non, mais... se reconvertir. Je dis pas ça. Et si tu veux, je me suis dit, j'ai besoin de me fixer un objectif autre qui pour moi est atteignable, enfin en tout cas qui me paraît atteignable, pour aussi pour avoir aussi, tu vois, un exutoire et un autre objectif que je pourrais certainement atteindre. Et aussi qu'ils puissent m'accompagner tout le long de ce cheminement.
Mais je pense que justement, c'est hyper intéressant parce que je suis persuadée que... moi aussi, je suis dans un cheminement aussi assez similaire, que plus la pratique d'un sport et le fait d'avoir une routine, d'avoir une propre discipline, peut aider aussi dans ce cheminement bah, professionnel. Et c'est ce que je voulais te demander aussi. Est-ce que tu penses déjà, si cette pratique en fait, d'avoir cet objectif sportif, on te des sportives avant, et justement cette rigueur du marathon, est-ce que tu penses que cette composante physique t'a aidé, toi, dans ta reconversion, de par la discipline qu'elle demande? Et si oui, en quoi, en fait?
Alors, oui. Enfin, déjà, oui, ça m'a aidé. Après, je suis convaincue des bienfaits du sport et c'est un exutoire. Hein, donc, ça m'a beaucoup aidée parce que comme je l'avais quand même imaginé, ça a été galère. Je me suis posé des questions. Je suis passée par une très longue phase d'introspection. J'ai commencé ma reconversion par une longue phase d'introspection. J'ai pris une formation aussi pour m'aider. Et y a des fois, tu es tout seul devant ton carnet à répondre à la formation et t'en sais rien. T'as beau te poser toutes les questions, il n'y a aucune réponse qui vienne. Et quand tu sais que t'as l'entraînement le soir ou que t'as la sortie running, voilà. C'est ce moment de liberté et de déconnexion. Après, ce que j'apprécie beaucoup dans l'aspect running, c'est que quand tu vois, on va au stade, on va courir, t'es en tenue de sport. Tu sais pas ce que font les autres. Et ça, j'adore, parce que chaque fois que j'ai fait des apéros, soirées et tout, la première question qu'on te pose, c'est « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et en fait, ce qui était chouette, c'est qu'au stade, il n'y a personne. On ne le demandait pas beaucoup, mais si tu veux, on était tous en tenue de sport, donc il n'y avait pas cette question professionnelle. J'avais vraiment l'impression, tu vois, de mettre ça... J'avais vraiment l'impression de mettre ça sur pause. Et par contre, pour ce que ça m'a apporté, donc déjà, ça a vraiment été, comme je disais, un exutoire. Donc, ça m'a vraiment soutenue, accompagnée, tu vois, ça a rythmé mes semaines et ça m'a apporté une rigueur. Parce que finalement, tu vois, ça m'a obligée à avoir une rigueur dans ma reconversion. Quand tu prépares un marathon, bon, t'as la rigueur des entraînements, t'as aussi la rigueur au niveau de l'alimentation, t'as la rigueur aussi au niveau du sommeil, hein, parce que au niveau de, il y a quand même, tu vois, c'est l'hygiène de vie, on va dire. Et finalement, ça m'a fait aussi adopter une hygiène de reconversion. En tout cas, je me suis créé un climat de reconversion avec des moments dédiés. À moi, à mon développement, je me suis mise au Miracle Morning, je me suis mise à la méditation, à réfléchir vraiment à mon avenir, à faire des petites demi-journées par semaine d'inspiration où je regardais des vidéos, j'écoutais des témoignages et donc pour moi ça vraiment, tu vois, ça m'a aidée au niveau de la rigueur.
D'accord, super. On va y revenir un petit peu plus tard et une question aussi que j'avais envie de te poser, c'était parce que je sais que beaucoup qui m'écoutent actuellement, qui écoutent ce podcast aussi, se posent les mêmes questions, sont dans des entre-deux de vie, et toi j'avais envie d'avoir ton avis sur, parce que même moi je l'ai vécu à titre personnel, comment selon toi, ou comment toi tu as distingué en fait les lassitudes passagères qu'on peut tous avoir et qu'on peut tous connaître dans nos vies, dans nos métiers, voilà, il y a des moments où on en a clairement ras-le-bol, et les besoins profonds de changement. En fait, comment tu as su, toi, à ton niveau et par rapport à ton expérience, que non, c'était tu pouvais plus faire ça et que c'était fini et qu'il fallait que tu fasses autre chose, en fait.
Ah ben, alors, déjà, ce qui m'a quand même mis la puce à l'oreille, c'est que ça se répétait 5 fois. Et pour moi, il y a vraiment eu, tu vois, le truc de se dire, bon, si ça se répète autant, c'est que quand même, ça peut peut-être dire quelque chose. Et ensuite, je pense que c'est aussi notre corps qui parle. Tu vois, par exemple, moi, je remarquais que le vendredi soir et le samedi soir, je dormais très bien, mais que le dimanche soir, j'arrivais pas à m'endormir, j'étais stressée, j'étais angoissée, je commençais un peu à perdre aussi l'appétit parce que je m'ennuyais tellement, si tu veux, je pense qu'à un moment, quand ton esprit, voilà, il veut pas, c'est ton corps qui commence à prendre le relais. Et je pense que au fond de toi, il y a cette petite voix qui te dit bon, maintenant, ça suffit. En fait, ça suffit. Maintenant, passe à autre chose. Et peut-être que tu vois des moments passagers. Si des fois c'est un surplus, t'as beaucoup de pression, c'est une période de rush parce que je sais pas, il y a eu une grosse campagne ou quelque chose comme ça. Mais
toi, qu'est-ce que tu faisais, c'était quoi ton métier? C'était un métier à responsabilité que tu avais?
J'étais chargée de marketing. J'étais chargée de marketing, de programme, de programme de marketing relationnel. Et donc, en fait, J'ai toujours fait les mêmes tâches à peu près, tu vois, pendant 5 ans. C'était chouette. Et moi, ce qui m'a mis aussi la puce à l'oreille, c'est que quand j'ai commencé mon CDI, j'étais super contente, tu vois. Et j'aimais les missions que je faisais. Et en quelques mois, ça m'a dégoûtée. Donc, c'est ça aussi qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est ce dégoût et ce non-sens, en fait. C'est, tu vois, de se dire, mais à quoi ça sert ce que je fais ? Je suis enfermée toute la journée, ma vie, elle passe, j'ai même plus le contrôle dessus. Donc, voilà.
Et du coup, donc, si je comprends bien, tu as demandé une rupture conventionnelle à ton dernier employeur. Donc forcément, ce changement, ça implique aussi des risques financiers personnels, puisqu'à cette époque, j'imagine que tu savais pas encore ce que tu voulais faire vraiment. Donc toi, comment tu as réussi tu as un petit peu répondu, mais comment tu t'es dit, ok, aujourd'hui je dépasse mes peurs et puis je vais de l'avant. Et comment tu as abordé ce processus de reconversion? Est-ce que tu t'étais entourée? Comment ça s'est passé pour toi?
Alors c'est vrai que ça pourrait surprendre des auditeurs le fait que j'ai décidé de me reconvertir sans savoir ce que je voulais faire. Et comme je t'expliquais, c'était trop viscéral. S'il y a des personnes, je précise, s'il y a vraiment des personnes qui ont, tu vois, déjà un projet en parallèle et qui arrivent à supporter leur job, testez-le, mettez-vous à 90 ou 80%, je dis pas que mon exemple est le bon, hein. Je préfère juste, de toute façon, chacun son chemin.
Oui, bien sûr.
Donc voilà. Et en fait, je préfère juste le préciser. Moi, je suis partie sans savoir où j'allais, j'en suis pas morte. Donc c'est un choix de vie. Et en fait, la rupture conventionnelle, c'est un jour où je continuais ces tâches inutiles et je me suis dit, maintenant,
stop.
Tant pis, tu la demandes. J'avais commencé à prévenir mon entourage proche j'allais pas pouvoir continuer comme ça. Alors financièrement, on va dire que avec le chômage, ça me permettait quand même de subvenir à mes besoins parce que j'avais un salaire qui était plutôt convenable, donc ça allait. Ça m'a aussi demandé d'apprendre à gérer mon budget, ce qui était pas plus mal parce qu'avant je ne le faisais pas. Donc c'était bien. Et au niveau de l'entourage, alors je pense que j'ai eu un peu de chance parce que mon entourage proche m'a vraiment aidé. Soutenu, ouais, merci, j'avais pas trouvé le terme. Elle m'a vraiment soutenu et a vraiment compris ma décision en me disant, ok, maintenant prends ce temps pour toi, réfléchis, parce qu'aussi, il faut dire ce qui est, je l'ai saoulé, je l'ai saoulé vraiment. Ça faisait 5 ans que ça allait pas et ils m'ont dit, écoute, maintenant Anna, je crois que t'as vraiment besoin de prendre ce temps-là parce que c'est pas possible. Après, au niveau de l'entourage, je pense que ce qui est important, c'est de se créer son entourage stimulant. Comme par exemple l'ont été mes partenaires de course qui m'ont soutenue quand on s'est soutenu pour la prépa marathon et le marathon. Enfin, pour moi, c'est vraiment la même chose. Et peut-être les relations et les personnes qui comprennent le moins le choix. Alors, c'est soit de s'en éloigner un temps ou de les voir à dose homéopathique, comme je dis, soit de prendre aussi conscience que c'est leur peur.
Ils projettent.
Je vais te donner un exemple, mais oui, voilà, les gens projettent et souvent les gens voudraient se reconvertir, mais n'osent pas. Et je pense qu'il faut vraiment prendre avec des pincettes les mots des autres en se disant qu'ils parlent d'eux. Et qu'on les a compris, mais c'est leur vie et nous c'est la nôtre. Et finalement, on n'a pas de compte à leur rendre et il n'y a que nous qui pouvons changer notre vie. Donc c'est bien beau d'avoir les conseils de Pierre-Paul Jacques, mais finalement, c'est pas facile. Hein. C'est un exercice qui m'a pris, c'est un travail qui m'a pris beaucoup de temps. Mais le jour où j'ai demandé ma rupture conventionnelle, je me suis projetée à quelques années toujours dans le même job et je me suis dit, tu vas en mourir quoi. De façon imagée, quoi, hein, mais c'est pas possible. Donc, mais je pense que cette lionne ou ce lion qu'on a, on l'a tous en nous et qu'on est vraiment tous capables de le réveiller pour avancer, quoi.
Et ça fait peur de se retrouver avec soi-même aussi parce que moi, je parle de moi aussi parce que c'est exactement ce que j'ai vécu en arrivant à Dubaï et je me suis retrouvée vraiment clairement avec moi-même et je pense que c'est la phase la plus compliquée que l'on puisse connaître. Et du coup, moi, j'ai mis en place beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et toi, j'aimerais savoir justement, donc, tu disais que tu avais regardé des vidéos TEDx, donc ce que j'ai fait aussi. Est-ce que tu as testé d'autres choses, donc justement, pour trouver ta voie? Je crois que d'abord, tu t'es tournée dans l'écologie, si je ne me trompe pas. Et
oui.
Et comment donc du coup tu as su par exemple que l'écologie était faite pour toi, puis après comment tu arrives à l'écriture, qu'est-ce que tu as fait, j'aimerais que tu nous racontes un peu toutes ces étapes.
Oui, alors en fait j'ai toujours été sensible à l'écologie, la nature c'est toujours un truc qui m'a intéressée, mes parents m'ont toujours m'en ont toujours parlé, et en fait quand je lisais, quand je te racontais que sur mes pauses déjeuner je lisais des témoignages, et ben je regardais aussi pas mal de trucs sur l'écologie, sur les nouveaux métiers qui émergeaient, etc. Et puis, le hasard, finalement c'est pas le hasard parce que il y a que des c'est nous qui créons tout, et puis la vie aussi elle nous aide beaucoup, et en fait j'ai trouvé une formation dans l'écologie parce que je voulais me former, et en parallèle je faisais ma fameuse période d'introspection où tu disais d'ailleurs que c'était hyper difficile de se retrouver seule avec soi-même, et je te rejoins tout à fait parce qu'en fait on l'a jamais fait, on n'a jamais appris à le faire, et c'est un peu, on sait pas où on va quoi, on sait pas où on va, on sait pas ce qui va en ressortir, on sait pas combien de temps ça va durer, et on a un peu peur. Donc parallèlement à cette période d'introspection, du coup, j'ai fait une formation à l'écologie, et j'ai commencé aussi un coaching quand j'avais bien avancé sur la période d'introspection, parce que à la suite de l'introspection, j'ai déterminé qu'il y avait l'écologie, l'écriture et la parole.
C'est déjà pas mal.
C'était déjà, bon, pour moi à l'époque, ça ne semblait rien du tout, mais j'avais passé un certain temps à me demander quelle serait ma journée idéale, qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur, si j'avais tout aucune contrainte financière ou matérielle, donc des questions qui demandent quand même un certain temps de réflexion. Donc j'ai voulu monter un projet dans l'écologie, constituer une petite communauté Facebook et tout, mais ça m'a pesé. Je me suis pas du tout sentie alignée avec ça. Donc voilà, j'ai tenté aussi l'animation d'ateliers avec la fresque du climat, qui est un jeu qui sensibilise au réchauffement climatique. Mais pareil, je me suis pas projetée. Alors en parallèle, de par mes lectures, j'ai découvert un aspect un peu plus spirituel de la vie, et parce que je me questionnais beaucoup sur la mission de vie, et mes lectures m'ont amené à faire des expériences un peu non conventionnelles, on va dire, puisque je suis un peu partie à étudier, donc j'ai fait une lecture qu'on appelle une lecture karmique, donc c'est une lecture de vie antérieure pour essayer de trouver ma mission de vie. J'ai fait aussi du channeling, donc c'est une personne qui est canal avec des entités, on va dire, qui sont au-delà de nous, pour essayer d'avoir des informations. Donc, un gros travail aussi sur moi.
Et ça a marché ? Ça a marché, toutes ces techniques ?
Eh ben, il y a eu... ça m'a beaucoup aidé à assumer ma reconversion, à avancer, à gérer mes angoisses, mon stress, et à faire émerger l'écriture beaucoup plus que ce que je pensais. Parallèlement, j'ai commencé à écrire mes premiers articles sur Medium. Je me suis inscrite à des ateliers d'écriture. En parallèle quand même de tout ça, il y avait le marathon, donc la préparation, la Bien course, où là tu apprends beaucoup sur toi lors de la préparation. Ouais. Lors de la course aussi, mais aussi, tu te rends compte que finalement, c'est le chemin qui compte aussi, tu vois. Et ça, pour moi, c'est hyper important au niveau de la reconversion. Au-delà de l'arrivée, c'est le chemin, c'est la personne que tu es devenue, en fait. C'est quels ont été tes ravitaillements tout au long de ce parcours pour faire la personne que tu es aujourd'hui. Et donc, il y avait la course, et je crois que tu m'avais juste demandé mes rituels, et donc, pour te dire je m'étais créé un climat de reconversion, donc il y avait, mes lectures, des abonnements à des newsletters d'entrepreneurs que je trouvais inspirants, ou de personnes, en tout cas, qui avaient créé leur job sur mesure, donc des TEDx, des vidéos, et j'ai participé à beaucoup d'apéros, de rencontres, fait beaucoup de réseautage pour parler avec des gens qui étaient dans la même situation que moi, Et ça, alors, c'est vraiment un conseil, c'est rencontrer. Il faut vraiment rencontrer, et c'est aussi ce qui permet de se créer un nouvel entourage. Mmh. Et qui va nous soutenir aussi. Et je me suis même constituée des binômes pour avancer. Et parce que si l'entourage proche, ben, il est pas trop là, et ben, c'est chouette d'avoir un autre entourage. Et donc, en fait, de fil en aiguille avec l'écriture, lors de ma dernière séance de coaching en septembre dernier, je plaisante avec ma coach en lui disant « Ah, ben, je pourrais écrire un livre de tout ce que j'ai fait cette année. » Et elle me regarde, elle me dit « Ben, pourquoi pas ?» Et donc, je me suis dit « Ben, pourquoi pas, en fait ?» Et du coup, je l'ai
et
fait.
Et donc, ton voilà. livre, donc tu as écrit ton premier livre, « Dites non à une voix toute tracée ». Et donc, dans ce livre, si tu pouvais, donc, sans nous raconter, sans nous dévoiler tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc ton idée, si j'ai bien compris, voilà, c'est de mêler toute ton expérience avec le marathon et avec et ta reconversion, du coup.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que je livre le témoignage de ma reconversion, que je mets en parallèle avec la progression de la, enfin avec le marathon, c'est-à-dire vraiment il y a vraiment les deux, tu vois, il y a les deux niveaux en parallèle. Il y a d'une part la reconversion, d'autre part le marathon, et chaque fois en disant en quoi les deux ils s'alimentent. Et ce que j'ai vraiment cherché à faire, c'est de témoigner mais de façon très transparente sur ce que j'ai vécu. Donc c'est-à-dire que autant mes moments de joie, j'en parle, mais je parle aussi de mes moments de galère, de doute, d'échec, de toutes les expériences qui m'ont pas ravitaillée, comme je dis, mais qui ont été importantes, de toutes mes découvertes, pour aussi, voilà, on parle souvent de la reconversion et de la réussite, etc., mais on est des êtres humains avant tout, et c'est normal de passer par des périodes de doute, de galère. Et donc, j'en parle aussi, mais c'est savoir comment, en fait, finalement, tu les transformes pour en faire quelque chose.
Et justement, je voulais te demander, toi, donc, dans tout ton processus, est-ce que, donc, si tu pouvais revenir sur des moments qui ont été peut-être plus difficiles et comment tu les as dépassés, peut-être aussi, je pense aussi au regard des autres, toi, puisque dans la société, tu travaillais sur toi, clairement, donc tu n'avais pas forcément à ce moment-là de travail fixe. Toi, déjà, comment tu l'as vécu et est-ce que tu as des moments, justement, où c'était un petit peu plus compliqué et comment tu les as dépassés ?
Alors, le regard des autres, ça a clairement été le gros premier problème. Au départ, je le criais sur tous les toits que je me reconvertissais. Et quand les autres ont commencé à me dire « Ah, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Mais comment tu vas gérer financièrement ? Est-ce que t'es pas trop jeune ?» Et alors là, tu remets limite ta décision en question. Et j'ai mis beaucoup de temps à assumer ma reconversion. Et au départ... Après, j'ai vraiment esquivé le sujet, quoi. C'est-à-dire que, ouais, je me reconvertis. Bon, et toi, du coup, enfin, vraiment, c'était, tu vois, j'essayais d'éviter le truc, sauf que les gens, ils revenaient, et ils revenaient sur la question, et moi, ça m'allait pas. Après, j'étais un peu vague en disant, oui, fais de l'écologie, de l'écriture, je sais pas trop, bon. Et jusqu'au jour où, ben, notamment avec tout le travail que j'ai fait, on va dire un peu plus spirituel, où j'ai assumé ma relation en disant, en disant aux autres, ben, écoute, en ce moment, je suis en train de prendre du temps pour moi, de prendre du temps pour me réaliser personnellement et professionnellement. J'ai besoin de ce temps-là. Et en fait, en assumant mes propos, les autres étaient beaucoup plus réceptifs. Et je pense qu'aussi, je l'ai tranquillisé. Mmh. Parce que quand j'essayais d'esquiver, je crois qu'ils comprenaient ma panique. Et donc voilà. Donc, je dirais que ouais, déjà, la peur du regard des autres, mais ça m'a vraiment pris du temps de le faire. Mais vraiment, l'assumer, même s'il faut du temps, voilà, l'assumer et aussi se dire si... Et j'étais à l'aise aussi pour dire si j'ai pas envie d'en parler, je le dis et j'en parle pas, quoi. Et je pense que voilà, faut être à l'aise avec ça. Sinon, les difficultés, ben, je me suis, enfin, quand j'ai fait l'expérience d'animation d'atelier où j'ai essayé de monter une communauté et tout, la déception, je me suis dit mais mince, c'est pas là. Bon, et c'est vrai que bon, ben, sur le coup, ben, tu pleures, hein, voilà. tu pleures, t'es décis, tu t'es dit mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et puis en fait, tu comprends que finalement, c'est chaque expérience qui t'amène un apprentissage. Et donc, si j'avais pas fait cette expérience-là, j'aurais pas pu savoir que c'était pas pour moi. Donc, il faut expérimenter. Tester. C'est pas grave. C'est pas grave si on se trompe. Je veux dire, on n'est pas chirurgien ou... tu vois, voilà, il n'y a pas un enjeu de vie ou de mort derrière, donc voilà. Et puis ensuite, je dirais que qu'est-ce qui m'a peut-être aussi la fatigue physique due à mon entraînement du marathon, parce que ben, finalement, je la connaissais pas, je découvrais mon corps. Je devais gérer mon sommeil, je rentrais des fois courbaturée, j'étais HS. Alors c'est sûr, c'était pas ma reconversion, mais c'était quand même à l'image de ce que je vivais pendant ma reconversion. Et finalement, c'est d'apprendre à être à l'écoute de son corps, à être à l'écoute de ses ressentis aussi, tu vois. Et aussi à se motiver, parce que des fois, on peut avoir envie de... Durant une reconversion, moi, il y a plus d'une fois où j'ai eu l'envie d'abandonner, de me dire non, mais tu fais fausse route. Et puis finalement, avec cet objectif marathon, j'abandonnais pas quoi le marathon, si tu veux. Même si j'étais HS, j'avais pas envie, j'allais à mes entraînements quoi. Il fallait que j'y aille, donc voilà.
Si, complètement. et justement, ce livre aussi, j'ai envie qu'on y revienne un petit peu. Donc, toi, combien de temps ça a duré, tout ce processus d'écriture, entre le moment où tu t'es dit « je commence » et le moment où il a été publié
Donc, alors, je l'ai commencé... à partir de mi-septembre, j'ai commencé à réfléchir au plan. Donc, ça m'a pris trois semaines, un mois quand même à vraiment réfléchir à où je voulais aller. Et en même temps, j'ai eu l'idée de le faire en parallèle de la course à pied. Parce qu'en plus, je trouve que la course à pied, c'est quand même vraiment à l'image de la vie. Hein. Quand tu fais une course, t'as des moments de côte, tu galères. Des fois, c'est plat, c'est super. Y a l'arrivée. Et ensuite, ça s'est fait hyper vite. C'est-à-dire que j'ai commencé en mi-octobre, exactement, je ne sais plus. Et le 16 décembre, j'ai envoyé mon manuscrit.
Et
donc
hyper rapide, hyper rapide.
Hyper rapide, et en même temps, je me sentais tellement à ma place, comme je n'avais jamais été. J'étais tellement nourrie, en fait, par ce que je faisais, que je ne voyais plus les jours passer, le temps passer. J'étais même pas fatiguée. Tard le soir, tôt le matin, le dimanche, c'est pas grave. Enfin, j'étais vraiment dans mon élément. Et c'était la première fois de ma vie que ça me faisait ça.
Voilà. Et ton livre, d'ailleurs, il est accessible où ? J'ai vu quelque chose passer hier. Je crois qu'il est en librairie depuis hier.
Il est en librairie depuis le 9 juillet. Il est disponible partout, sur toutes les plateformes. Toutes les grandes enseignes et toutes les plateformes, les plateformes en ligne. Oui.
Je vais te poser une dernière question avant de finir sur des petites questions plus personnelles. Quel conseil donnerais-tu à ceux qui souhaiteraient prendre le risque de se reconvertir ?
Alors, moi, je dirais s'écouter. C'est s'écouter vraiment et arrêter de remettre sa vie dans les mains des autres, parce que on n'a qu'une vie, c'est la nôtre, personne n'a le droit de décider à notre place. Et même si la société, elle nous dit que c'est bien, qu'il faut avoir un bac plus 5, tu vois, qu'il faut il faut rentrer dans le moule, si ta voix intérieure elle te dit que non, eh ben écoute-la parce que ne le regrette pas. Ou alors, si tu as peur, imagine-toi, elle est un peu dure, l'exercice est peut-être un peu difficile, mais imagine-toi au dernier jour de ta vie en te disant que tu ne l'as pas fait. Moi, ça m'aide des fois, et notamment le livre. J'avais vraiment rêvé d'écrire un livre, c'était dans mon carnet d'objectifs, pour te dire, de 2019, sans savoir que ça me mènerait là. Mais je me suis dit... Mais au pire, c'est pas grave, au pire on me le refuse, mais au moins j'aurais essayé, tu vois. Au moins j'aurais essayé. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le premier conseil. Le deuxième conseil, ce serait de savoir s'entourer. Vraiment, parce qu'on est fragile. En tout cas, je trouve qu'on est quand même fragile quand on remet sa vie en question, sa vie professionnelle, et ça amène, en tout cas, moi, ça m'a quand même amené à réfléchir à ma vie personnelle aussi, puisque c'est vraiment corrélé. Et si tu as ton entourage qui te plombe, ça t'aide pas. Donc, Donc, au-delà de l'entourage proche, c'est se constituer son entourage, de participer à des soirées réseau, à des apéros, à des groupes Facebook où tu te sens moins seul, où tu vas donner où tu vas avoir des conseils. Et ça te permettra, ça permet vraiment de se sentir soutenu et de pouvoir avancer. Un autre conseil aussi que j'aime bien donner, c'est de se créer ce que je te disais tout à l'heure, le climat de reconversion. Donc c'est vraiment en fait se créer le climat dans lequel tu te projettes, de lire du contenu inspirant, de regarder des gens qui t'inspirent. Moi, un de mes premiers déclics avant le square dont je te parlais tout à l'heure, ça a été le TEDx de Laurent Gounelle.
Ah, je l'ai devenir vu. Pleinement je l'ai soi-même. Vu, il est incroyable.
Ouais, il est génial. Et ben oui, ce genre de parcours, c'est super. Enfin, moi, je trouve ça hyper, hyper inspirant. Et donc, de se créer quand même un climat dans lequel t'es bien et qui t'amène à aller de l'avant. Moi, j'ai intégré la méditation, par exemple, et là, maintenant, je suis devenue une addict. Mais peut-être que pour certains, ça peut être de
Exactement.
Faire des postures de yoga, chacun, franchement, ou de, je sais pas moi, de coudre, enfin, chacun son truc. Et, mais tu vois, par exemple, où je me suis mise à écouter des podcasts. Et en fait, je trouve qu'au plus tu baignes dans un environnement inspirant, au plus tu y accèdes. Et au plus tu fais des rencontres et il y a des opportunités qui se créent.
L'action amène l'action.
L'action amène l'action et aussi il faut prendre le temps de récolter les graines de ce que tu as semé. Parce que des fois, moi, il y a des fois, j'ai eu envie de rien faire. Ouais. Hein. Enfin, faut être honnête. Vraiment. Et aussi, un dernier conseil, du coup, si j'en prends le temps, ce serait de prendre le temps. On n'est pas, tu vois, c'est pas un 3 km ou un 10 km. Moi, je compare un marathon à ma reconversion, mais en disant que c'est aussi normal de prendre le temps, en fait, et que c'est pas grave. C'est pas grave, mais au contraire, c'est important de prendre ce temps pour soi, c'est sa vie. Et il n'y a pas de... Enfin, voilà, il n'y a pas de honte à avoir. Au début, moi, j'avais honte quand je disais « Oui, ça fait quelques mois. » « Ah bon, ça fait quelques mois, ça fait longtemps. » Non, en fait, ça prend du temps et c'est pas grave, quoi.
Totalement d'accord avec toi. Et je rajouterais aussi le fait de se reconnecter à son enfant intérieur aussi et à se rappeler ce que tu aimais faire enfant. Moi, c'est aussi ça qui m'a aidée. C'est qu'est-ce que j'aimais faire enfant ? Qu'est-ce que je dessinais ? Qu'est-ce que j'écoutais ? À quoi je jouais ? Et je me suis aperçue que quand j'étais petite aussi, j'adorais parler dans un micro, je faisais des spectacles et tout ça. Et ça, c'est aussi, ça parle aussi beaucoup, je trouve. On va finir donc du coup par des petites questions. Si ça te dérange pas, tu peux y répondre au tac au tac. Ta plus grande peur.
Allez. Est-ce que c'est une peur parce que moi la plus grande peur qui me vient, tu vois, c'est les serpents parce que j'ai une phobie des serpents. Oui, mais là comme ça, c'est vrai que quand tu me dis ma plus grande peur, en fait, j'ai un peu du mal à la fin. Tu vois, on pourrait dire que les choses elles fonctionnent pas, mais en même temps, j'ai changé de philosophie de vie en me disant que quoi qu'il se passe, c'est de l'apprentissage. Donc finalement, j'apprends petit à petit à dompter mes peurs et en me disant que on verra bien. Oui, ça m'effraie un peu, le livre, etc. Et en même temps, je me dis, écoute, au moins, tu l'as tenté.
Très bien.
Voilà. Donc, je réponds pas forcément à ta question.
Si, très bien. Ton plus grand rêve
De continuer à écrire. Enfin, d'écrire d'autres livres et voilà.
Très bien. Ouais. Ton ou ta ou tes citations préférées?
Alors, la première, c'est de Lao Tzu. Qui dit « Un voyage de 1000 lieues a commencé par un pas », parce que je pense qu'à partir du moment où tu fais le premier pas, tout s'enclenche. Et moi, je l'ai vraiment vu à partir du moment où j'ai commencé à regarder le TEDx de Laurent Gounelle, à écouter des témoignages, et ben bizarrement, tu tombes sur des pubs Facebook, sur des pubs YouTube, des newsletters, des gens, tu rencontres des gens, enfin, les trucs, les choses, elles se font, elles s'enclenchent très très vite. Et alors, la deuxième citation, c'est, alors je la connais pas par cœur, du coup je l'ai notée, si ça t'embête pas. C'est: le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même, de Gandhi. Et c'est une des citations que j'ai écrite sur mon livre au début. Et parce que je pense que, je suis pas en train de dire faut pas faire le tour du monde, hein, loin de là, j'aimerais bien. C'est pas le moment en ce moment. Mais je pense qu'en fait, finalement, c'est hyper important de faire le tour de soi-même. Parce que on l'a jamais fait, on nous a jamais appris à le faire. Et je pense qu'à partir du moment où tu commences à te connaître, tu peux changer ta vie et ta vie, elle peut changer.
Totalement en phase avec toi. Ton ou tes mentors? T'es pas obligée d'en avoir.
Oui. Alors, moi, ici, il y a une personne qui m'a beaucoup... dont j'ai beaucoup apprécié le travail. C'est Charlotte Apieto de Post-ADEME.
Ah oui.
Donc, Post-ADEME, c'est post-à-démission. Peut-être qu'à l'audio, on entend. Parce que, voilà. Et en fait, elle a fondé une communauté pour la reconversion. Et j'ai été énormément inspirée par ses contenus, ses newsletters et par le groupe qu'elle a créé et où on a vraiment pu faire des échanges et où notamment j'ai rencontré mon binôme dans ce groupe-là. Quoi.
Très bien, on mettra en note du coup ce groupe. Si tu avais dû faire quelque chose différemment dans ton processus de reconversion?
Rien. Non, rien, parce que en fait, ma nouvelle philosophie de vie, c'est qu'il ne faut pas avoir des regrets et que si ça s'est passé comme ça s'est passé, c'est que ça devait se passer comme ça devait se passer. Non, parce qu'en fait, finalement, la personne que je suis aujourd'hui, c'est grâce à tout ce que j'ai fait, ce qu'on peut qualifier d'échec. Mais après, ça dépend comment le vocabulaire qu'on décide d'employer. Mais c'est que tout ce que j'ai fait, c'est ce qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc non, rien de différent.
La personne que tu souhaiterais entendre sur le thème de la prise de risque dans ce podcast?
C'est une bonne question. Quand j'ai pas forcément. Alors
quelqu'un qui t'inspire.
Charlotte Apieto de Post-Ad, par exemple. Oui, ça peut être une personne que je trouve est très intéressante.
D'accord, très bien. Voilà. Et c'est ma dernière question que je pose à tous les invités qui prennent des risques de façon totalement différente, puisque je veux montrer avec ce podcast aussi que le risque est positif, ce qu'on n'entend pas forcément dans cette notion. Mm-hmm. Donc, c'est ta définition du risque et selon toi, les risques nécessaires pour vivre pleinement.
En fait, pour moi, le risque, finalement, c'est juste d'oser. Enfin, en fait, pour moi, derrière le mot risque, c'est juste oser. Enfin, c'est pas, il n'y a pas une notion de danger pour moi derrière le risque. Tu vois, parce que c'est hyper connoté, comme tu dis, négativement, hein, le risque. Mais pour moi, le risque, c'est tenter de faire différemment et de peut-être de prendre, quand on dit prendre le risque de faire différemment de ce que font les autres, mais c'est aussi suivre son chemin, quoi. Donc, on n'est pas en situation de vie ou de mort, comme je disais tout à l'heure. Donc, pour moi, le risque, c'est d'oser aller vers ce que tu as envie de faire et ce qui t'inspire. Et alors, la deuxième question que tu
m'as dit... Les risques nécessaires pour vivre pleinement.
Oui. Les risques nécessaires, c'est oser sortir de sa zone de confort. C'est oser changer son quotidien, c'est oser changer ses habitudes, c'est oser parler à une personne à qui on n'ose pas forcément parler, mais c'est pas grave. Enfin, voilà. En tout cas, c'est oser changer et sortir de sa routine et oser s'écouter. Voilà. Avoir le courage de s'écouter soi et de faire abstraction des autres. Et à la rigueur, au pire, prenez quelques jours pour vous isoler seul avec vous-même et où il n'y a que vous, quoi. Et...
Merci beaucoup, Anna.
Et merci, Laura. Alors, je vais... Attends.
Vous venez d'écouter l'Aléa. Merci d'avoir passé ce petit temps avec moi. Quelques petites infos en plus avant de se quitter. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur mes comptes Twitter et Instagram, l'eau from Paris, ou encore le compte lalea.podcast. À bientôt.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.